les 22 heures. Éther et Crac. Radio Campus Paris. 93.9. Un lundi sur deux. De 22 heures.
Bonsoir à tous, il est 22h et vous écoutez Radio Campus Paris dans l'émission Éther et Crac. On vient d'écouter un titre de Primitive Calculator, Do That Dance, qui a été réédité par Desire il y a un an ou deux, sorti sur en 79, donc du soundpunk assez primitif. Ce soir, je suis en compagnie de Camille, bonsoir.
Bonsoir.
Benjamin.
Salut.
Et Pascal Herry.
Bonsoir.
Donc il va passer des disques à partir de 10h30-10h40, une sélection qu'il a préparée. C'est donc l'auteur du blog Vertigo Jeanne. En attendant, Camille, c'est à toi de nous présenter ce qu'on va écouter.
On a donc enregistré un reportage sur SA Records, le label, à Bristol. On est parti avec Lucas pendant un week-end. C'était pour l'occasion d'un festival en hommage donc au label qui s'appelle Between Hello and Goodbye. Donc organisé en hommage à ce label qui a sorti énormément de disques entre 87 et 95. Donc maintenant c'est terminé. Énormément, ça veut dire qu'ils en ont sorti en fait une centaine. Au bout de 100, ils ont décidé d'arrêter parce que, je sais pas, c'était un chiffre rond. Sur place, on a rencontré pas mal de monde, surtout Matt Haynes et Claire Wade, qui sont les deux fondateurs du label. Ils nous ont parlé de l'histoire du label, qui est assez intéressante, de leurs influences, comment est-ce qu'ils avaient commencé, comment est-ce que ça s'était arrêté. Il y avait aussi des concerts d'anciens groupes qui avaient joué sur le label. Donc on a vu un concert Heavenly Secret Shine. Enfin, Heavenly, c'était Rob et Amelia qui faisaient partie de Heavenly. Secret Shine, qui est un autre groupe qui est sorti sur le label. Et on les a interviewés, donc Evan Lee. On a fait des interviews, un reportage avec des interviews croisées. On n'a pas mis des morceaux du live parce que si on fait un petit bilan du festival, c'était super chouette, mais c'était les lives étaient plus qu'ils étaient avant et j'ai trouvé que ça avait quelque chose d'un petit peu désuet. Voilà. En revanche, on a mis des titres qu'ils avaient enregistrés. Les vinyles sont très très difficilement trouvables. On en parle dans le report. On a fait aussi une visite de la ville guidée menée par Claire Wade. C'était assez pertinent en fait parce que toutes les pochettes ou presque beaucoup de pochettes ont été réalisées avec des clichés de la ville de Bristol. Donc ils sont vraiment implantés dans cette ville et c'était marrant de faire cette visite avec Claire qui avait... on était à 50 derrière elle. C'était un peu la maman canard. Et Bristol est une très très jolie ville en plus. Voilà, donc on va passer ça. Ça va durer une demi-heure et c'est tout de suite.
Tu as dû simplement qui t'a aidé à...
Ah oui, pardon.
Qui t'a aidé à traduire,
les
etc.
remerciements, oui, j'allais les faire aussi tout à l'heure, sinon, mais okay. Tant qu'on y est, on peut dire merci. Alors, d'abord à Lucas, avec qui j'ai fait ce reportage. Grâce à ses talents d'ingénieur, on a pu monter l'interview, la mixer, faire les niveaux, tout ça. Et surtout, il a pris le son. Et aussi un merci à Patrick, qui est américain. Et qui nous a vraiment aidé à comprendre l'accent de barbare de Matt Haynes, qui, vous allez le voir, parle très 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 vite. C'est assez marrant, ils ont les accents typiques anglais. Voilà. Donc un grand merci à Lucas et à Patrick.
We threw a party on a boat here in Bristol with Hecla.
On a organisé une soirée sur un bateau. On a invité autant de groupes à jouer que possible. Et on a fait payer 5 livres à l'entrée, ce qui est
really cheap,
très bon marché.
Which I think might have been a mistake, because I think a lot of
ça
people
a peut-être été une
bought
erreur.
Tickets because they were so cheap and then didn't actually come because they just wanted the tickets as collector's items.
Pas mal de gens ont acheté des billets parce qu'ils n'étaient pas chers.
To something
mais
to have,
finalement, ils ne sont
pas venus. But no, I mean, we were getting letters from Hong Kong,
Japan. C'était pour nous taquiner ou avoir quelque chose, un souvenir.
Just wanted to come.
On a reçu pas mal de lettres venant de partout dans le monde, d'Hong Kong, du Japon, d'Amérique latine. C'était des gens qui voulaient venir à cette dernière soirée. Pour nous, c'était la plus belle façon de gagner. C'était super important de se dire qu'arrêter Sarah. C'était une chose positive, qu'on n'avait pas failli à notre mission, mais qu'au contraire, on l'avait réussi. Une chose qui nous emmerde vraiment, c'est quand les gens nous disent « C'est dommage que Sarah n'existe plus, que vous ayez fait faillite, etc. » Parce que ce n'est pas le cas. Nous n'avons jamais eu à nous endetter au prix que ce soit. Et ce, jusqu'au bout. La fin du label n'avait rien à voir avec l'argent. Ce n'est pas que nous n'avions plus de fric ou qu'on devait trop d'argent. On voulait tout simplement arrêter parce qu'on avait atteint la barre des 100 albums. Et on tenait vraiment à ce que les gens sachent que c'était l'unique raison. Donc quand on a fermé le label, on a diffusé des annonces dans la presse musicale et chacune a dû nous coûter 2000 livres. La campagne avait pour nom A Day for Destroying Things. On annonce bien que les 100 albums ont été sortis et qu'on arrête définitivement. On a bien fait en sorte que ça passe pour une fête, rappelant tout ce que l'on avait fait et non un enterrement. Je crois qu'il y avait un décalage entre ce qu'on sortait sur Sarah et la musique contemporaine, le grunge, certainement la techno. Mais je crois aussi que le label était plus varié que ce que pensent les gens. On a eu des groupes plus brillants comme Golden Dawn. On n'a jamais vraiment voulu être anachronique. L'idée, ça a toujours été de sortir des disques de pure pop. En termes de musique, on ne sortait que la musique que l'on aimait. C'était la seule idée qu'on avait en tête. On ne rejetait pas des groupes parce qu'ils n'étaient pas compatibles avec un certain genre ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, plus tu publies, plus tu recevras de maquettes de groupes ressemblant à peu près à ce qui est sorti sur ton label. Une partie de la scène grunge était tout de même un peu macho, ultra viril. Enfin, je ne crois pas que Nirvana soit concerné. On n'aimait absolument pas les esthétiques rock traditionnelles, que ce soit l'attitude que pouvaient adopter les groupes, la masculinité, le machisme. On voulait en être l'antithèse. C'était bien plus l'attitude qui gênait que la musique en elle-même, si ça a du sens. Tu vois, si à l'époque tu étais dans un gros groupe, genre les Happy Mondays, je n'ai rien contre les Happy Mondays, tu vois, mais tu te mets torse nu, tu bois des lagers, tu joues les mâles, quoi. Et je crois qu'il y a un énorme fossé entre ce genre de truc et ce qu'on faisait nous. Et puis je pense que la presse devait savoir que Sarah n'avait pas besoin d'eux et qu'on n'en avait rien à faire non plus. En gros, leur pouvoir vient du fait de contrôler ce que pensent les gens et comme nous, on n'en avait rien à faire. C'est marrant, tu vois. On s'est appelé Heavenly en partie parce qu'à l'époque, tout était très macho. Et on a délibérément voulu un nom pour le groupe qui agace ce genre de personnes. Ouais, on voulait vraiment les énerver en prenant un nom féminin, un peu embarrassant à dire. On a pensé à des pétales pour Heavenly. C'est un peu comme pour les field mice, tu vois. Même si, je ne sais pas s'ils l'ont choisi pour les mêmes raisons. Bien sûr, beaucoup de labels ont été ou sont dirigés par des femmes, mais je crois que la plupart le sont par des hommes. Sinon, tu as le cas des copines qui suppléent de temps en temps. Donc ça m'arrivait de décrocher le téléphone et les gens me demandaient de leur passer le responsable de Sarah Records. Et je leur répondais que c'était moi. Ils n'étaient pas très à l'aise, beaucoup pensaient que j'étais la copine de Matt qui pillait des bouts de papier en deux et que ce serait pareil pour sa prochaine copine. Mais ce n'était pas notre cas. Nous devions sans cesse expliquer ça et les groupes nous suivaient. C'était une période très fermée d'esprit et on faisait en sorte de ne pas faire la promo des vinyles avec des filles sur la couverture, ce qui était à l'époque monnaie courante. Tu voulais faire un album indé et tu collais 2-3 filles et 60s qui n'avaient rien à voir avec les chansons ou avec ton groupe. C'était l'image parfaite pour vendre ton album. On ne voulait pas que le rôle de la femme soit de décorer. On voulait qu'elle ait un rôle moins caricatural. Il y avait un réel mouvement à l'époque vers ce côté viril, comme Primal Scream, qui avait débuté en faisant de la pop jangly, qui avait commencé à porter des pantalons en cuir, à parler de meufs et de drogue, exactement ce qu'on détestait, on était à l'opposé de ça. Nous aussi, on a pas mal tourné avec Heavenly. Quand on a sorti le second et le troisième LP, on a joué un peu partout. Et c'était plutôt marrant. Cathy, la chanteuse, elle était assez marrante. Et Matthew, le batteur, était pas mal drôle aussi. Il était plutôt... Il était tout le temps bourré. Nos concerts étaient plutôt bordéliques. En fait, celui que vous avez vu était à peu près bon. C'était l'après-midi, donc tout le monde était sobre. Mais c'était quand même vraiment bizarre. Je ne crois pas qu'on puisse voir le public dans la vidéo, mais vu depuis la scène, t'es là, tu joues en plein air, dans un campus américain, et tu vois tous les badauds manger leur pizza. Parfois, ils tapaient un petit peu dans leurs mains, mâchaient en rythme. C'était pas un public hyper entraînant. Puis ils mangeaient beaucoup aussi. Ouais, on était on venait d'un peu partout. The Orchids viennent de Glasgow, The Field Mice de Londres, donc on était voisins. On se voyait seulement pendant les concerts, mais bon, on a fait aussi une tournée en Bretagne, en France. La tournée en Bretagne était vraiment marrante. On était dans de toutes petites villes comme Kerguat et Vannes. Kerguat en Bretagne, tu vois. C'est près d'une base navale, donc il y avait beaucoup de marins. Ouais, c'était vraiment bizarre. Je crois que ce qui s'est passé, et ça arrive assez peu, c'est que les concerts ont amené des personnes à découvrir le groupe de Sarah Record. Et ont persuadé des gens de venir. Et on pouvait seulement organiser une petite tournée. C'était vraiment une tournée locale dans cette toute petite partie de la Bretagne. Et ouais, ça avait l'air petit, mais en même temps, c'était plutôt personnel, intime. Mais après, on s'est retrouvés coincés un peu dans ces endroits. Tu joues à Vannes et Rennes et tu te dis, après ça, où est-ce que je peux encore jouer ? En Bretagne, à Kerguat. Non, mais c'était super. J'aime vraiment cet endroit, c'était cool. C'est déprimant quand je vois que le premier album qu'on a sorti s'est vendu à 500 livres. J'aime croire que si je l'avais eu à ma disposition, je l'aurais donné à quelqu'un ou je l'aurais vendu pour le prix initial, c'est-à-dire à peu près 3 livres. Comme tout bon socialiste, j'aurais aimé que ma musique soit dispensée du côté pervers du capitalisme. Mais bon, si c'est un objet rare,
And the minute something is limited,
et puisque tout est limité, dès l'instant où quelque chose devient rare, les gens sont prêts à dépenser des sommes grotesques. J'aurais préféré que ça soit autrement. Ça me paraît débile, cette idée que les gens achètent parce que c'est rare, mais n'écoutent même pas la musique. Pareil pour les gens qui achètent des œuvres d'art et les enferment dans un coffre quelque part. L'œuvre en elle-même ne signifie rien pour eux. Tout ce qui les intéresse, c'est la valeur. Ce serait bien de pouvoir reproduire plus d'exemplaires de quoi que ce soit, uniquement dans le but de faire chuter sa valeur. Mais ce serait un geste plutôt extravagant. Oui, c'est assez marrant quand tu vois comme les gens regardent en arrière. Je crois que c'est une réaction assez commune de regarder en arrière. Quand tu le fais, tu vois forcément plus clair. Et je crois que ce que Matt et Claire ont réussi à faire est plus gros que cela semblait être à l'époque. Parce qu'ils ont fait exactement ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. La plupart des sorties étaient vraiment bonnes. Je ne veux pas dire que chaque single était excellent parce qu'il y en a plus d'une centaine. Mais elles ont fait leur boulot, et c'est plutôt rare. Et je pense aussi parce que, tu vois, c'était juste avant les débuts d'Internet, que tu devais vraiment le vouloir pour trouver des disques. C'était un truc un peu secret, mais c'était un bon secret. Bien sûr, j'ai été influencé par la scène post-punk plus que par la scène punk en elle-même. Elle lui succédait et les gens se sont rendus compte qu'on pouvait sortir son album soi-même. La plupart des groupes punk étaient signés sur des majors. Ce n'est qu'après le punk que les groupes se sont rendus compte à quel point il était simple d'enregistrer ces morceaux, de faire presser ces vinyles.
You could just go to a pressing plant and say, we want to make a record, please, and you could do it. And that is still one of the most interesting periods in British music, I think, is those years, sort of 70.
Ça demeure une des périodes les plus intéressantes de la musique britannique, entre 78 et 80. Lorsque les groupes provenant des quatre coins du pays, des myriades de groupes, créaient leur label et passaient sur une émission de radio unique, celle de John Peel. Le seul qui daignait passer ce genre de musique. Le bon côté, c'est que tout le monde écoutait cette fréquence. Donc si tu passais dessus, tu pouvais vendre 5000 impressions de l'album. Malgré le fait que tu l'avais enregistré dans ta chambre, que tu avais fait presser sur vinyle, que la qualité des compositions était maigre et que tu en avais dessiné la couverture. C'était pas un problème parce que tout le monde t'avait écouté le soir en se couchant à 22h. C'est impensable de nos jours avec Internet et les webcasts et ce genre de médias. Mais à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. Cela mène à la création de cette scène, je dois dire, assez fermée sur elle-même. Parce qu'on était tous basés, enfin nous, je veux dire, que tout le monde écoutait cette station et les albums passaient dessus. Et on se rendait compte qu'on pouvait faire ce que faisaient les autres. C'est à partir de cette logique qu'ont commencé des labels comme Factory et qu'ils ont sorti des albums d'artistes à leur place. Au début des années 80, création m'a vachement influencé. Il faisait tout le boulot des artistes et les mettait en circulation. Ça, c'est la scène dont je suis issu et celle qui m'a influencé. Réalisant soudainement que les labels et les groupes n'étaient pas deux entités à des années-lumière. Ils étaient gérés par des gens tout à fait ordinaires et je pouvais en faire partie. Je pouvais faire tourner un label et j'ai compris que c'était pas très compliqué. C'était l'idée que tu pouvais imprimer la couverture de l'album à la papeterie du coin et que si tu étais préparé à trimer et à emballer les couvertures et les vinyles dans des pochettes plastiques, il n'y avait aucune raison que tu ne puisses pas le faire.
Perfectly happy to take on those records and send them out to shops.
À l'époque, les disquaires étaient ravis de distribuer un peu partout dans le pays et tu finissais par vendre tes albums quelques jours après les avoir enregistrés. Mais bien sûr, tout a changé depuis. Je crois que la chose principale qu'on a pris du punk, je veux dire, on aime leur musique, mais la chose principale qu'on en a tirée, c'est vraiment l'idée que tu puisses sortir un truc toi-même si tu en as envie, fabriquer tes propres pochettes, écrire tes propres chansons, organiser toi-même tes concerts. Je crois que ça a constitué une partie importante de l'indie, même avant Sarah. Je veux dire, à l'époque de Telly Lagoche, c'était déjà comme ça. Ça a continué avec Sarah, mais je dirais qu'ils ont concrétisé cette définition de l'indie en empruntant à tous ces idéaux DIY précédents. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, indie a une signification différente. C'est devenu juste un genre musical au sens large. Le terme en lui-même est devenu un peu inutile. Je crois que le mot punk, en revanche, pourrait devenir à nouveau utile, parce qu'il veut vraiment dire que tu fais les choses toi-même, comme tu l'entends. En Amérique, les gens l'utilisent plus dans ce sens-là, alors qu'ici, quand tu dis punk, les gens pensent tout de suite à... Et toi, tu leur réponds, non, non, on n'est pas tout à fait le genre de punk, mais c'est pas grave, on continue quand même à croire qu'on est des punks. Tout en a devenir une institution. Donc ici, maintenant, indie veut dire groupe qui sonne comme Arctic Monkeys. Et les punks, c'est des gars sur les cartes postales que tu peux trouver devant le Buckingham Palace avec des coupes marrons. Enfin, voilà. C'est devenu un peu dénué de sens. Un jour, on pourra peut-être acheter des cartes postales indie. Ouais, avec un gars timide en photo.
I'm not afraid to to the ground. So how can I say I wanna go somewhere to fly away?
Vous êtes toujours à l'écoute d'Ether et Crack sur Radio Campus Paris. Il est 22h30 passé. On vient d'entendre à l'instant un reportage que j'ai fait avec Lucas sur Sarah Records, donc le label de Twipop. Et on va enchaîner avec une petite sélection de Pascal qui tient le blog Vertigo Jane.
Vertigo Jane.
Je crois que tu as oublié de remercier quelqu'un.
Ouais, j'avais déjà remercié les gens avant, mais en fait c'est juste pour dire aussi que j'ai oublié de dire que Lucas n'a pas fait seulement le son, il a fait aussi les questions avec moi, enfin il a fait tout le reportage avec moi en fait, voilà, c'était un petit erratum.
Très bien, donc Pascal qui est à nos côtés pour jusqu'à minuit pour la fin de l'émission, donc qui est l'auteur du blog Vertigo Gen, et auparavant tu avais ouvert un premier blog il y a quelques années qui s'appelait Donna Slot.
Ouais, alors merci de m'inviter, premièrement. Donna Slot, c'était maintenant il y a très longtemps, parce qu'il a été fermé il y a 3 ans.
D'accord.
C'était une page très simple, qui avait pour but de juste de partager de la musique. Je suis pas certain qu'il faille parler beaucoup de la musique.
D'accord.
En tout cas, moi, ça m'intéresse pas énormément, bizarrement. Lire la musique m'intéresse encore moins. Je l'écoute. Ça D'accord. me paraît une approche assez saine. En tout cas, c'est la mienne. Donc voilà, l'idée, c'était Donna Slot, c'était juste une page, un fond noir, les vignettes qui correspondaient tout simplement aux pochettes de disques. Et ça faisait une espèce de mosaïque. Moi, je trouvais ça joli, personnellement. Mais bon, après, c'est un peu facile à dire. J'en suis l'auteur. Voilà, après, j'ai fermé. Je faisais ça avec un pote qui s'appelle Samuel, qui peut-être m'écoute. On l'a fermé parce qu'on commençait à tourner en rond. Finalement, il y avait moins de challenge entre nous deux, à se trouver des morceaux pour titiller l'autre. C'est quelque chose sur lequel on n'a jamais communiqué vraiment. On a juste ouvert un jour le site et puis moi je recevais des mails parce que j'étais l'administrateur du site. Plein de mails, de plus en plus. À la fin, il y avait 6000 visiteurs uniques. Ce qui est
assez énorme en effet.
Je crois que c'est pas mal. Enfin, j'ai pas trop de notion de site internet, mais juste savoir que 6000 personnes viennent tous les jours, quand même c'est les mêmes, je trouvais ça énorme. Et à la fin, on avait beaucoup de mails assez rigolos. Mais finalement, on l'a fermé. Derrière tout ça, j'ai reçu une vague de mails qui me disaient: mais pourquoi tu fermes? À laquelle je répondais qu'à moitié. Il n'y avait pas vraiment de raison, sinon voilà, on voulait passer aux choses.
D'accord.
Finalement, 3 ans après, moi j'ai réfléchi à plusieurs sites qui partageraient Alors, de la musique, puisque c'est le truc qui m'intéresse, mais aussi tout ce qui est autour du papier. Moi, je collectionne beaucoup de papier, de livres, de choses un peu bizarres.
Autour de quelle période, de quel mouvement?
Alors, j'aime beaucoup le constructivisme.
D'accord.
Voilà, mais c'est des livres relativement chers, hein, voire très chers, donc ça me limite beaucoup.
Forcément.
Voilà, beaucoup. Donc, je voulais faire un site qui ne soit pas que de la musique, et finalement, à force de... J'ai monté plusieurs sites, j'ai demandé de l'aide à certaines personnes pour m'aider à coder, parce que j'avais des exigences, je suis quelqu'un de très chiant, et finalement, ce qui en ressortait, j'aimais pas. Bon, voilà.
Et donc t'es revenu à
l'idée. Voilà, je reviens à un truc simple, la musique, et voilà. Mais par contre, voir un petit peu mieux les pochettes. Et surtout, ce qu'il n'y avait pas sur Donna Slot, c'est qu'on pouvait... Enfin, si on mettait... s'il y avait deux morceaux qui nous intéressaient sur un même disque, il aurait fallu mettre deux fois la même image.
D'accord.
Donc ça aurait pu un peu casser l'effet mosaïque, exactement. Là, avec le nouveau design, enfin, je ne sais pas si c'est du design, mais on peut mettre plusieurs morceaux. Et c'est d'autant plus intéressant que moi, maintenant, j'ai une écoute plus album qu'auparavant, où j'étais plus écouter un ou deux morceaux et ne pas m'intéresser à l'ensemble de l'album.
Et tu as donc fait le choix de ne pas mettre tes disques en libre téléchargement comme c'était le cas avec de nombreux blogs auparavant, mais c'est juste de mettre en écoute deux, trois morceaux et donc de laisser à tes internautes le choix d'approfondir ou non, en fait.
Alors, je laisse surtout le choix à l'internaute tout seul de faire clic droit, enregistre sous.
C'est vrai, mais c'est voilà. Pas directement indiqué comme ça.
Ouais, non, je l'indique pas. Je suis assez méfiant parce que je pense que... Enfin, il y a certains disques qui même peuvent être rares, sont des artistes relativement confidentiels, qui sont quand même sur des gros labels. Je trouve que ce sera vraiment, vraiment idiot parce que j'ai écrit download en gros.
De faire fermer un site.
Voilà, d'avoir des problèmes. Je pense que... Oui, dans l'absolu, je préférais que ceux qui écoutent, s'ils aiment, ils puissent aller l'acheter. Maintenant, voilà, j'ai rien à demander à personne non plus.
D'accord.
Voilà, ceux qui le font, le font. Il y a des techniques pour tout prendre d'un coup.
Mmh.
Bon, voilà. Très franchement, je pense pas qu'il y ait d'enjeu à ce qu'on télécharge la musique que je mets, parce que...
Enfin, en tout cas, rare en plus.
Ouais, donc, là, c'est rare.
Rarement réédité, donc du coup...
Difficilement, oui.
D'accord, et donc tous ces disques proviennent de ta collection que tu entretiens depuis plusieurs années?
Ouais, alors depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai commencé par beaucoup de musique électronique, notamment House, Deep House, et un truc qu'à un moment, j'ai vraiment vomi, j'en pouvais vraiment plus, et c'est toujours le cas aujourd'hui, je ne veux plus écouter cette musique. Non, c'est assez radical, mais voilà, c'est mon cheminement. C'est surtout que j'ai...
C'est parce que t'en as trop écouté ou...
Alors, sûrement que j'en ai trop écouté. C'est surtout que j'ai écouté autre chose. Et quand t'écoutes autre chose, consciemment, inconsciemment, tu compares.
Ah oui, forcément. Ouais.
Et bah, voilà. Donc,
ça tenait pas la comparaison.
Enfin, pour moi, tout du moins. Et surtout, j'ai un... Enfin, aujourd'hui en tout cas, le moment où j'ai arrêté à écouter ce genre de musique, je dis que j'ai arrêté d'écouter, c'est pas vrai, je suis, mais j'ai beaucoup plus de recul. C'est surtout que j'ai un petit problème avec les boucles. Et quand t'es pas DJ, écouter une boucle, quand bien même elle soit géniale, si ça dure 6 minutes, au bout d'un moment c'est chiant quoi. Et donc je suis revenu, parce que finalement tout le monde vient de là, sur des formats. Refrain couplet et qui finalement font très bien le job, et voilà, et c'est mieux produit, c'est mieux orchestré. Sur la boucle, je pourrais en parler beaucoup. Je peux être une petite anecdote sur. J'écoutais un jour, je me demande si c'était pas un truc de Red Bull Music, Red Bull Academy, de Jean-Michel Jarre, où il disait.
Le grand
Jean-Michel Jarre. Alors, Jean-Michel Jarre. J'avais un a priori très négatif sur lui, vraiment. Je trouve ça
excellent, hein, pourtant.
Et voilà.
Il est pas mal, quand même.
Et...
ça reste un album qui est intéressant à écouter.
Ouais.
Non, mais tu as raison. C'est, sans ironie, tu as raison. Après, je n'écoute pas Oxygène, en l'occurrence. Mais par exemple, son tout premier 45 tours, qui est sorti 2 ans après qu'il l'ait fait, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc, pour moi, hallucinant. Et après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense vraiment qu'il sait de quoi il parle.
Oui, complètement.
Et donc, Jeff Mills l'avait approché. Jeff Mills, je pense que...
Oui, bien sûr. Enfin, les papes de la techno actuelle. Enfin, depuis les années 80.
Donc, Jeff Mills l'avait approché en lui demandant est-ce qu'on pourrait faire un truc ensemble ? Jean-Michel Jarre, je pense qu'il est très difficile d'accès. Je pense qu'il ne se prend pas pour n'importe qui. Ça, c'est l'effet à Jenny, sûrement. Donc, il lui a fait comprendre qu'il ne faisait pas tout à fait la même chose. Et bon, je ne sais pas comment réagit Jeff Mills. Et il donnait cette métaphore que je trouve vraiment intéressante. Il disait, voilà, moi, je fais de la musique concrète, expérimentale, enfin GRM et compagnie. Je viens de là. Et Jeff Mills fait de la techno. Et il disait, imaginez filmer un nuage qui passe dans le ciel et le passer en boucle. Et en fait, ce nuage-là, tout le monde adore le ciel, tout le monde adore les étoiles, tout le monde ça, trouve ça vraiment beau, un nuage qui passe dans le ciel, mais le passer en boucle deviendrait, au bout de la troisième répétition, extrêmement chiant. Et c'était, pour lui, c'est ça la techno.
D'accord.
c'est dur, c'est, voilà, puis c'est faux, ça n'est pas que ça, bien entendu. Mais je trouve l'image assez forte. Et voilà. Et donc, lui, dans sa musique et dans les musiques que je peux écouter par ailleurs, il y a justement ce truc-là où il y a un peu moins de la boucle. Donc, ça m'a conforté un petit peu. Enfin, je ne sais pas si c'est Jean-Michel Jarre, mais voilà, ça m'a.
En tout cas, c'est un bon appui. Oui. Qu'est-ce qu'on va écouter du coup du début de ta sélection ?
J'ai découvert, je crois, il y a deux mois, une artiste américaine qui s'appelle Ethel Azama. Qui est mi-japonaise, mi-hawaïenne. Alors, c'est. Mais elle est américaine. Pourquoi ? C'est des espèces de familles qui, après la guerre, restaient sur Hawaï. Enfin, voilà, je ne vais pas faire ni de l'histoire, ni de politique. Et en fait, c'est produit par Martine Denis.
D'accord.
Donc, c'est Exotica Jazz. Voilà.
Et bon, écoutez, c'est tout de
suite. Et c'est juste en 59.
D'accord.
Kapulani e ino wa.
Toujours à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 dans l'émission Interreg Crac, avec à l'instant un titre sélectionné par Pascal. Qui c'est ?
Alors, le groupe, c'est Les Frères Maigris, c'est trois frères, je ne donnerai pas les prénoms parce que je les oubliais. Et c'est un disque marocain sorti en 1974.
D'accord.
C'est pas du traditionnel comme on a pu entendre. C'est quelque chose entre les deux, parce que quand on regarde, quand on lit la pochette et qu'on voit tous les instruments qui sont utilisés, ça reste marocain. Après, on sent quelque chose de psychédélique, que moi j'aime beaucoup, et je trouve ça extrêmement bien produit dans ces petits chœurs.
Donc tu me dis que c'était produit par un producteur français ?
Ouais, alors produit exactement, je sais pas. C'est Philips, donc enfin voilà, ça reste en 74, donc le Maroc est très proche de la France.
Oui, bien sûr.
Et oui, ça fait mention d'une personne qui s'appelle Jack Hendrix et qui est, alors j'allais dire connu, je sais pas s'il est connu, mais qui a fait plein de de disques un peu dans tous les sens, et il y a des trucs vraiment, vraiment très intéressants. Il y a un autre disque des Frères Maigri qui est une pochette bleue où on les voit aussi, avec écrit en jaune, et je vous encourage à l'écouter. Il y a un morceau un peu plus. Espèce de. C'est pas funk, mais avec un break qui est vraiment cool.
Voilà. D'accord.
Et je disais en off que les Frères Maigri, a priori, enfin j'espère cette semaine, je le mettrai sur le site.
Très bien.
On attend ça avec impatience.
Qu'est-ce qu'on va écouter après ?
Le message est passé. alors juste, alors ça c'est un truc que j'ai découvert aussi il y a en janvier. J'ai la mémoire des dates.
En effet.
C'est deux artistes, Péloquin et Sauvageau. Alors je crois que c'est Claude Péloquin et Jean Sauvageau ou l'inverse. Je crois que c'est Claude Péloquin et Jean Sauvageau. C'est québécois.
D'accord.
Y a quelqu'un qui fait de la musique, c'est Sauvageau, et un autre qui est poète, artiste, écrivain, qui a travaillé avec Robert Charlebois. Je ne sais pas très bien ce qu'il a fait. Enfin, bref, ce morceau est extrêmement bizarre. Enfin, je le trouve très bizarre. C'est électronique derrière. C'est vraiment, vraiment bien, je trouve. Et par-dessus, y a une histoire. Et l'histoire, c'est comment les Indiens, alors les Indiens dans le sens Iroquois, Sioux, se sont fait avoir par les Occidentaux,
d'accord,
ou les Blancs. Et l'histoire, c'est qu'un Blanc vient taper à la porte d'un Indien et lui dit « Je vais mettre un poteau aujourd'hui. » Et l'Indien lui dit « Oh, il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas. »
Il recommence le lendemain.
Et voilà, et le deuxième jour, il y a un deuxième poteau et il dit que ce n'est pas grave, et ainsi de suite. Voilà, et à la fin, ils se font avoir. C'est... Je ne sais pas comment qualifier ce style de musique. Enfin, ce morceau, en tout cas, c'est vraiment bizarre. C'est 72.
Et bon, on va écouter ça tout de suite.
Là, je vous présente Monsieur l'Indien. En l'honneur de tous les déracinés du monde par la civilisation. Un matin, il y a un gars qui cogne sa peau du tipi pour demander la permission à Monsieur l'Indien de mettre un poteau à 20 pieds de son tipi. Monsieur l'Indien dit « Ah, fait plaisir, monsieur. » Deux jours après, il s'en allait en chasse pour sa famille. Il se retourne de bord, puis il y avait un autre poteau à peu près 20 pieds à gauche. Oh, c'est pas grave, il dit, ils m'ont demandé la permission pour un, ils peuvent en mettre deux. On a de la place, ça, on est plein d'espace. Sa femme, elle sort. Elle dit, as-tu vu dehors? Elle dit, il y a un fil. Elle dit, il y a un fil entre les deux poteaux. Elle dit, je connais pas ça, mais elle dit, ça sent drôle. Oh, c'est pas grave. Ils y en mettront pas d'autres. Ils vont demander la permission d'en mettre rien qu'un. Oh, sinon, mes deux, c'est pas grave. Ben, m'en donner. Il se lève un matin, le bébé braillait, sa femme aussi. Et lui, il était fatigué parce qu'il avait chassé toute la nuit. Il y avait une traque, deux rails de chemin de fer juste en face de sa maison. Là, il avait pas demandé la permission. Là. Là, il dit peut-être que j'aurais pas dû permettre de... Là, il s'est mis à bégayer, puis... Il sentait quelque chose de pas correct. Mais comme son cœur d'homme était grand, il dit à sa femme, il dit, j'espère que nos enfants verront pas ça. Fait que, il voulait plus jamais se voir dans sa maison avec deux poteaux, des fils télégraphiques. Une traque à l'avant de son tépi pour se faire dire par la civilisation qu'il n'était plus chez eux.
toujours à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9, avec à l'instant un morceau choisi par Pascal, qui est un morceau de jazz.
Ouais, alors c'est Alsinger sur Futura Records, je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ouais, c'est ce qu'a sorti Jean-Pierre Massiera, a sorti des trucs sur ouais. Futura Records.
Ouais, alors, en fait Futura, il y avait plusieurs, enfin à un moment il y a eu plusieurs sous-labels, il y avait Futura Son, Futura je sais pas trop. Mais quoi.
C'était français non comme label?
Oui, c'était français, donc il y avait un gros catalogue de jazz, il y avait du prog,
oui, c'est ça,
il y avait des trucs expérimentaux. C'est sur le futur classique. Un morceau de 71, et Alsinger, c'est un grand saxophoniste. Je suis pas très jazz à la base. Mon père connaît énormément le jazz classique, et peut-être que, je sais pas comment dire, mais ça me gavait. Et ça comme ça. Par contre, le jazz modal, vraiment, ça m'intéresse. Et voilà, là, ça, c'est, je pense, un morceau qui n'est pas forcément le plus commun, le plus écouté du jazz modal, mais qui est, à mon sens, intéressant. Ouais.
D'accord. Tu as choisi un morceau de Nico par la suite?
Ouais. Alors, Nico, en solo, sur l'album Desert Shore.
Excellent album.
70, ouais.
Et qui est la bande-son d'un film de Philippe Garrel?
Je sais pas.
Elle sortait avec Philippe Garrel en fait à cette époque-là et elle joue dans le film Desert. Le film s'appelle Desert. Enfin, en français, il a un autre nom. Il n'y a pas d'édition DVD en fait de ce film. Il est diffusé des fois. Alors, je l'ai vu à la Cinémathèque notamment. Il est sur YouTube en entier également.
Et c'est bien.
Oui, en fait, c'est tourné en Islande et donc elle est moitié nulle, à moitié du temps. Et puis
sur son cheval.
Ah, ouais. Et il y a l'enfant qui est avec elle, c'est l'enfant qu'elle a fait avec Philippe Garrel. Sur la pochette.
Je crois que la pochette est toujours repoussée.
Et pourtant, c'est un très bel album.
Je pensais que c'était le fils de Delon.
Justement, elle a fait un enfant avec Delon aussi. Ouais, c'est okay. Ça. Okay. Elle a fait un enfant.
Et elle a fait un morceau aussi qui s'appelle.
Le petit chevalier, non
c'est ouais, ça où il chante. Exactement.
Ouais.
Et là, le morceau, c'est The Falconer. Donc, voilà. Et derrière cet album, il y a John Cale et compagnie. Quoi.
Oui, c'est John Cale et puis Brian Eno.
Non, il n'y a pas Brian Eno.
Il a fait un coup de main sur Marble Index, il me
semble. Oui, exactement. Qui est un super album aussi.
Très beau, oui. Bon, Nico sur Radio Campus Paris.
balcony sitting on a summer sand at dawn, unlocking flooded silver cages. And with a silver dinner rise, the lovely faces. And the lovely silver traces erase my empty pages.
Τις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανο στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν. Το λέω ξανά. Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Τότε μόνο ξαφνικά και ορμητικά έρχεται η επιβίωση και με βάζει σε αναγκαστική απογείωση, σε ταχύτητα αμυντική, σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθημη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπέκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας, επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.
Toujours à l'écoute de Radio Campus Paris dans l'émission Inter et Crac avec Pascal qui tient le blog Vertigo Chain, avec à l'instant un morceau de Lena Platonos.
Oui. Lena Platonos, je me souviens plus de.
De quel album
c'est. Ouais, de quel album c'est. Ben, c'est surtout que c'est écrit dans
un grec. En grec.
En grec, voilà. Donc, c'est un peu compliqué à lire.
En effet.
C'est 85. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle est sortie. En fait, je l'ai appris récemment. C'est un mythe underground en Grèce.
Ouais.
Je pensais qu'elle était vraiment inconnue. Et il n'y a pas très longtemps, elle est sortie de l'hôpital. Parce qu'elle était internée pour schizophrénie. voilà, ce qui a dû rajouter à son aura. Voilà, et donc elle a donné un concert, mais c'est une musique qui n'a rien à voir aujourd'hui.
Il fait plutôt quelque chose orienté vers la folk maintenant.
Ouais, il y a de la folk, il y a des choses un petit peu avec beaucoup de synthé, mais extrêmement bizarre et surtout vraiment pas bien. Avant ça, il y avait de la techno.
Ouais.
Il y avait de la techno comme on n'en veut pas, je pense. Et enfin, très cheap, très cheesy. Et surtout, elle parle par-dessus pour. On ne sait pas très bien ce qu'elle raconte. Et du reste, il faut peut-être s'y pencher parce que c'est un petit peu comme ce qui a pu se passer dans le punk avec la Movida en Espagne. Il y a beaucoup d'ironie dans les paroles, paraît-il.
D'accord.
Et même si c'est politique, c'est paraît-il assez rigolo. Voilà.
D'accord.
C'est la prochaine étape.
Et en tout cas, il y a quelques albums de Léna Platanos dans les années 80, jusqu'à la fin des années 80, qui sont assez...
Ouais, bah celui dont tu me parlais avec les lunettes, oui. Enfin, là non plus, je sais pas le machin. Et...
Donc, c'est Gallop, non, c'est...
Oui, ça, oui, t'as raison.
Je crois que c'est Gallop, ouais. qui est vraiment excellent. Et c'est, effectivement, c'est des raretés à trouver, en tout cas en France.
C'est des super disques.
Très très bon disque. On va écouter un autre titre que t'as sélectionné maintenant.
Ouais, alors c'est un truc beaucoup plus récent, c'est 2003. C'est un article qui s'appelle Alex Cortex.
Ouais.
C'est la première fois que j'écrivais à un artiste pour lui dire que enfin, j'étais vraiment impressionné par son disque. Et il a répondu, c'était par mail, il a répondu tout de suite. Et le type est vraiment, vraiment gentil et manifestement très modeste parce qu'il m'a dit « Je ne sais pas ce que tu écoutes comme musique, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait en 2 heures. Je trouve ça pas franchement génial. » Je t'invite à écouter ça, et il m'avait envoyé un lien à l'époque, en 2003, internet c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Il m'avait envoyé un lien, il m'avait donné tout ce qu'il avait sorti depuis qu'il fait de la musique. Il fait beaucoup, beaucoup de musique, il est très prolifique. Pour le coup, c'était pas terrible. Enfin, en tout cas, moi j'aimais pas.
Mince.
Et donc voilà, il y a un petit échange qui s'est mis en place. Pendant très peu de temps, mais vraiment, je lui disais, mais je comprends pas parce que ça sonne terriblement bien. Donc, c'est plein de petits morceaux d'électronica, pour faire simple, avec des nappes, avec des choses un peu plus déstructurées. Là je propose un petit morceau où c'est une nappe, et je lui disais, mais quel est le matériel utilisé ? Et il me disait, non mais c'est un mode tracker, je sais pas si ça dit quelque chose aux gens, des modes tracker. C'est un séquenceur en fait, mais c'est vraiment très archaïque. Il y a ce genre, donc c'est comme un Cubase, un Logic. Mais c'est extrêmement archaïque et surtout c'est pas très ergonomique, donc c'est un peu chiant visuellement. Mais c'est quelque chose de très simple et très léger, et il y en a même sur la Game Boy. Et ensuite, il faut charger ses sons et on programme, entre guillemets. Et je lui disais, mais au début, je pensais vraiment qu'il se foutait de moi. Je ne le croyais pas. Et j'ai installé un mode tracker chez moi, j'ai pris un son n'importe comment, et bizarrement, ça sonnait tout de suite.
D'accord. Alors,
je ne sais pas pourquoi, j'ai désinstallé juste après. Voilà, mais voilà. Je sais pas si c'est un disque qui parle à tout le monde. Faut peut-être avoir une petite culture un peu électronique, techno et blabla. Voilà, mais moi c'est vraiment un truc que j'adore et j'ai beaucoup beaucoup de disques, mais il y a très peu de disques que je me refuse de lâcher. Il y a des disques que j'ai pu acheter un peu cher que le lendemain je peux dire je m'en fiche, voilà, c'est bon. Celui-là je vais vraiment le garder.
D'accord. Bon, écoutez ça tout de suite.
Thank you.
toujours à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 dans l'émission Intérêt Crack, avec à l'instant un titre choisi par Pascal. C'était Anna, c'est ça?
Ouais, l'artiste c'est Anna et le titre c'est Systems Breaking Down. Il n'y a que deux disques de cette fameuse Anna, celui-ci et un autre qui se veut de la synth pop, mais qui n'est pas bien du tout.
Ça date de quand du coup?
C'est 82.
D'accord.
C'est anglais. Ça, c'est... Alors je ne sais pas très bien quel était l'objectif de sortir ce genre de disque, parce que ce n'est pas facile à jouer, c'est relativement long.
C'est expérimental pour quelque chose qui devait danser.
Ouais, aussi. Ouais, exactement. C'est en plus c'est la dance version.
D'accord.
Donc c'est assez spécifique.
D'accord. Quelle est la suite?
Alors la suite, c'est un groupe, c'est sorti qu'en digital, à ma connaissance, qui s'appelle Front de Cadeau. Donc c'est une
une référence pas cachée.
Enfin, une référence Front de Cadeau. Le titre c'est le PD BPM.
D'accord.
Donc tout un programme. c'est du liaison dangereuse d'aujourd'hui quoi.
Bon, voilà. Bah, c'est très bien ça.
Ouais, c'est cool.
On va écouter ça tout de suite.
Thank you. We'll be right back.
toujours à l'écoute de Radio Campus Paris, 93.9 dans l'émission Derek Rack, avec un morceau sélectionné par Pascal, auteur du blog Vertigo Gen. C'était...
Alors, l'artiste. On ne peut pas le prononcer.
On ne peut pas le prononcer, parce que c'est un dièse.
Oui, en fait, dièse. C'est ouais, plusieurs fois le symbole dièse, 5 fois. Le nom du maxi, c'est pareil. C'est sorti en janvier, en début d'année, il me semble. Ou fin 2013, ou plus tôt. C'est un disque dont pas mal de gens ont parlé, parce qu'on ne savait pas qui était l'artiste, et comme les gens trouvaient ça cool, c'est distribué par Rush Hour. Rush Hour, c'est un distributeur et un magasin aux Pays-Bas. Et donc, il y avait beaucoup de spéculations sur qui c'est pas. À un moment, le nom d'Aphex Twin est sorti, mm-hmm. et tout le monde s'est dit « Ah ouais, bah oui, c'est génial, pourquoi on n'y a pas pensé avant ?» et tout ça. Bizarrement, le disque a pris un peu de valeur, pas trop finalement, et je sais pas comment finalement, c'est pas du tout Aphex Twin, et quelqu'un a dit que c'était, alors pour cette face là c'est Roy D, c'est un artiste hollandais, qui, enfin si on aime bien ce morceau, on aimera le reste,
d'accord.
Roy D, donc ça c'est plutôt cool, et la face B c'est un italien, mais en fait ça reprend un petit peu la même nappe. C'est la rythmique qui change, et comme je disais un peu pour l'anecdote, j'écoute un truc de jazz que moi je n'aime pas, qui est un peu spécial, et au tout début il y a ces nappes là, mais de façon, enfin on les entend à peine, et enfin je comprends vraiment pas, si on est cartésien ça peut pas être du hasard.
D'accord.
Je pense vraiment que c'est un sample, mais par contre le travail est assez intelligent, mais enfin les accords sont les mêmes, donc je vais enquêter.
D'accord.
Le okay. Prochain disque peut-être.
Ouais, puisqu'il nous reste 8 minutes à passer ensemble, donc on arrive sur la fin de la sélection.
Le prochain disque c'est Igor Vakevich. C'est un, tu connais?
Ouais, je connais, j'ai écouté ça, c'était marrant, j'étais à Metz, on était dans une voiture la nuit pour aller dans la forêt, pour voler une barque et faire des bêtises, et on a passé Igor Vakevich, c'était n'importe quoi, il parlait de l'Antichrist, ou je sais plus exactement quoi, du diable, voilà.
Oui, ça m'étonne pas trop, c'était bien la musique.
C'était incroyable. La première chose que j'ai fait le lendemain quand je suis rentrée chez moi, c'est que j'ai cherché ça sur internet, et du coup c'était, il y avait le mot Nathanaël dedans. C'était je sais plus exactement ce que c'était.
Alors, moi j'aime beaucoup. Bizarrement, enfin j'ai essayé de chercher, enfin j'ai pas trouvé beaucoup de choses sur lui. Après j'ai peut-être mal cherché. Il y a son père qui était un grand décorateur de cinéma et ce genre de choses. Là, c'est un petit peu moins du Vakevich, dans le sens où c'est un morceau avec beaucoup de percussions, que je trouve qu'il aurait pu sortir à Détroit.
D'accord.
Je trouve que ça fait très Josh Wink. Et alors, pour la petite histoire du disque, c'est un disque qui n'est pas facile à trouver, et d'autant plus qu'il a été censuré quand il est sorti à l'époque, donc en 73, parce que derrière, il y avait un autocollant, un petit peu comme pour la banane du Velvet Underground, mais sous l'autocollant, il y avait une croix gammée. Donc ça a fait tout un pataquès. Ce qui, bon voilà, après, je ne vais pas être trop fouillé, mais vu le nom, on peut penser que Igor Vakevich est juif. Voilà, je crois comprendre, vu le nom des titres, vu les inserts, vu un petit peu la musique, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Peut-être que là, il avait réfléchi un petit peu trop. Voilà, donc c'est un disque qui est bizarrement, parce que ce qui serait transgressif, c'est d'avoir le disque avec l'autocollant enlevé.
Ouais.
Bizarrement, il coûte plus cher quand on a l'autocollant dessus.
D'accord.
Donc il faut savoir l'anecdote, mais laissez l'autocollant.
D'accord. On va écouter ça. toujours à l'antenne de Radio Campus Paris pour la fin de l'émission Éther et Crac. Donc c'est un morceau de
Igor Vakevitch.
Vakevitch. Excellent morceau, en effet, hyper surprenant.
Et donc c'est le même album que
Camille.
Du morceau de Camille.
Mais comme quoi il y a tout du coup dessus, il y a de la dark techno et des psaumes satanistes.
Et Yames.
C'est magnifique. Merci Pascal d'avoir été à nos côtés.
Merci mille fois de m'avoir reçu.
C'est très agréable. Du coup,
je t'appelais VertigoGane, VERTIGOGANE .com.
Exactement. Génial. Donc rendez-vous. Il faut s'y rendre régulièrement parce qu'il y a plein de choses intéressantes.
Toutes les semaines, je mets des choses.
Voilà. Eh bien, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine Éther et Crac. Bonne
bonsoir.
Nuit.
Merci. Salut. Bonsoir.
Il est minuit.